Donc Rav Bérécy, 3 décembre 2017.
Et
du professeur André Nevesh.
Alors, le sujet du shiur, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gevura, Houdin, Emet ou Torah. On va voir Be'ezrat Hashem si on peut ainsi faire un tour. On devrait diviser un cours différent pour la Mida de Chesed, pour la Mida de Yitzhak, de Din, de Yaakov. Mais là, on va essayer, puisqu'on est à la fin de ces parashiot, en une seule fois, faire un petit concentré de ces trois Midot très importantes des Avot. L'essentiel du shiur est basé sur l'enseignement du Rav Dessler, du Rav Pinkus et aussi de mon maître, le Rav Koppelman, c'est Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Lucerne. Donc je vais prendre un peu ici, un peu là pour cette construction Bezrat Hashem. Donc nous avons, comme vous le savez, deux psukim qui nous montrent que les Avot, nos patriarches, avaient ces trois midot, qu'on va appeler trois qualités. Titen, Emet, le Yaakov, Chesed, le Avraham. Et ailleurs, on voit Upachad Yitzhak. Pachad Yitzhak, la crainte. On va expliquer le Chesed, on va expliquer le Pachad, et à travers ces explications, on va un petit peu rentrer dans toutes les parachiotes que nous avons étudiées jusqu'à présent. Et il y a beaucoup de points intéressants qui, tout d'un coup, vont prendre une autre dimension, notre éclairage. Pour commencer, vous savez que le Maharal de Prague, dans son Sefer Gur Arié sur Parashat Lech Lecha, explique ce qui est marqué dans le Midrash à propos du pasuk Vaya'al Elohim me'al Avraham. Akadosh Baruch Hu Vaya'al, il s'est levé de dessus Avraham. Ça veut dire que Hachem, il était sur Avraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Dit le Midrash, Ha'avot hen hen amerkava. Les Avot, c'est la Merkava, c'est-à-dire Merkava, on traduit par le char céleste, on traduit aussi par les pieds du trône céleste. L'explication que nous donne le Maharal, plus simple, plus détaillée, c'est par l'intermédiaire des Avot que la Shrina, la présence divine, réside sur terre. Ve Ashrina, il dit, I aleem, elle est sur eux. Et donc, les Avot sont ce qu'on appelle le Kissé, la Shrina. C'est quoi le Kissé? Le Kissé, c'est là où on s'assoit, c'est ce qui nous permet d'être assis. Donc le moyen de la Shrina de résider dans ce monde, la Shrina c'est bien sûr Rouhani, ce monde il est Gashmi, matériel, ce qui fait donc le lien entre la Shrina et le monde, ce sont les Avot. Aujourd'hui on sait que la Shrina elle se trouve au côté de la Maharavi. C'est pour cela qu'on va prier au côté de la Maharavi. Au côté de la Maharavi, parce que la Shrina, comme c'est marqué dans le Midrash, l'Ozaza n'a pas bougé du côté de la Maharavi. Il fut un temps où la Shrina se trouvait dans le Kodesh à Kodashim. Il se trouvait sur le Haron, sur la Kaporet, sur les Kérouvim. D'ailleurs, vous savez ce qui est marqué dans la Gemara, que Haron enominamida. Le Haron ne fait pas partie des mesures. C'est-à-dire que dans le Mishkan, ou dans le Tamidash, ou d'un côté d'un mur à l'autre, donc du sud au nord, on va dire dans le Tamidash, il y avait 20 amot, plus c'est dans 20 amot, ou plus dans le Tamidash, en tout cas dans le Mishkan, c'était 20, Mishkan c'était 10 sur 10, je crois, dans le Tamidash, c'était 20 amot. Nous dit la Gemara, si tu mesures d'un côté du Haron, le Haron se trouvait, le Haron à Kodesh, avec les chérubins, se trouvait au milieu, tu mesures d'ici jusqu'au mur du sud, tu as 10 amot. Et tu mesures de là jusqu'à l'autre mur, tu as 10 amot. Donc il y a 10 ici, 10 là, ça fait 20. Et vous mesurez d'un côté, ça fait 20. Et le Haron, où est-ce qu'il se trouve? Il est bien là. Il faisait au moins Amataim Vachetzi Okov, Amma Vachetzi Rochbo. Où est-ce qu'il faisait une Amma et demi? nous dit la Gemara, Aaron Enuminamida. Il est là, mais il ne prend pas de place. C'est le lien entre le spirituel, qui n'a pas de place, d'endroit, et le matériel dans ce monde. Ça, c'est donc à l'époque du Beit HaMikdash. Aujourd'hui, c'est au côté de la Maharavi que se trouve la Shrina. Et à l'époque, c'était sur les Avot. Les Avot, c'est donc le Kissé, la Shrina. Comme c'est rapporté dans beaucoup de livres, et entre autres, vous savez que le Baal HaTanya le dit, dans son Sefer HaTanya, il dit que pour être Merkava, la Shrina, il y a une condition. Elle est un peu dure, la condition, même très très dure. Nous dit le Baal HaTanya, il faut que pendant toute leur vie, les Avot, et le quatrième pilier, c'est David HaMelech, ils n'ont pas un instant oublié Akadosh Baruch Hu.
Wow.
C'est-à-dire, il n'y a pas eu un instant dans leur vie de Essea, Hadat, d'Akadosh Baruch Hu, un oubli d'Akadosh Baruch Hu. Toute leur vie. Avraham, Israël et Yaakov. Et aussi David HaMelech. Donc David HaMelech, lorsque vous savez que David HaMelech, à chaque instant de sa vie, il n'a pas oublié Akadosh Baruch Hu, donc il faut relire maintenant tout le Nar, toute la parasha de Meler en essayant de comprendre chaque épisode de David HaMelech avec cette idée que David HaMelech pas un instant a oublié Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on peut faire un cours, c'est l'allusion, c'est l'allusion, vous avez compris l'allusion, mais ça c'est un cours à part, ça il faut venir. Alors revenons au Havot. Donc le Havot, effectivement, l'heure qu'ils pensaient, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que chaque parole, chaque geste, tout ce que nos ancêtres, nos patriarches faisaient, c'était lié avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait rien dans leur action qui n'était pas pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lever un doigt, tourner la tête, tout ça, c'était tout lié avec la Shrina pour que Akadosh Baruch Hu puisse en dévoiler sa sainteté et faire résider la présence divine de la Shrina sur terre.
On dit même qu'il faisait toute la Torah.
Bien sûr, il faisait aussi la Torah.
Les mitzvot, la Torah.
Donc lorsque maintenant nous savons que les Avot, comme dit le Midrash, Avot en Merkava, et la Merkava, nous avons essentiellement ces trois piliers que nous allons voir, comme explique là le Rav Dessler, les Midot, vous savez, on peut parler des termes kabbalistiques, c'est-à-dire chesed, gvura, tiferet, mais on peut aussi les envelopper, les habiller et les rendre un peu plus palpables pour nous, qui ne sommes pas à ce niveau-là d'étudier la Kabbalah. Donc comment les Mefarshim Moussar, le Rav Dessler explique, on va parler de chesed, bon chesed ça c'est simple, chesed ça se traduit aussi par le chesed de la bonté. La Gvura, le Din, on va le traduire par la crainte du ciel. Et Tiferet, qui est une mida intermédiaire entre le Chesed et la Gvura, entre le Chesed et le Din, la symbiose entre les deux, c'est le Emet. Et en vérité, tout homme est, on peut dire, se dirige dans sa vie en fonction de ces trois midot essentielles qui sont en vérité développées encore avec trois autres midot dans le thème comme là c'est Netzar, Yesod, Yesod, mais dans leur base c'est toujours Chesed, Gevura, Tiferet, dire un à droite, un à gauche, un au milieu, mais ensuite aussi Netzar, Hod, Yesod. C'est toutes nos actions, c'est on peut, lorsqu'on remonte à la base, à la racine, on va comprendre que sa racine, c'est dans le Chesed. Sa racine, c'est dans la Gvura. Donc, bien sûr, Avraham Avinu, qui était Chesed, n'avait pas que Chesed, parce qu'il n'y a pas que Chesed dans l'âme. Il avait aussi un petit peu de Gvura. Il avait aussi du Emet, de même pour Yitzhak, de même pour Yaakov. Mais le point essentiel par lequel ils ont commencé, ça, c'était chacun en fonction de sa mida. Et comme le Rav Dessler explique très, très bien, il dit, lorsque on regarde la mida de Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est de vouloir faire le bien, répandre bien, donner du bien aux autres. Donc ça, c'est le Chesed. Il dit, quelqu'un peut avoir la crainte de ne pas avoir fait suffisamment de Chesed. Ça, c'est de la Gvura dans le Chesed. C'est ce qu'on va appeler Gvura Sheba Chesed. Ou alors, quelqu'un veut que son chesed soit amiti, vrai, et qu'il n'y ait pas de faille dans son chesed. Donc ça, ça va s'appeler le emet, la tiferet, sheba chesed. De même, lorsqu'on va prendre la gvura, la yira. C'est quoi la yira? Un homme a peur de quoi? De fauter. Donc comme il a peur de fauter, donc il va faire attention, il va aussi se trancher, nous allons voir qu'il va se replier un peu sur lui-même pour ne pas être face à la faute. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui va avoir peur donc de ne pas faire suffisamment de chesed, et à ce moment-là, même dans son chesed, donc on va avoir dans sa yira, il va y avoir du chesed dans sa yira. Ou alors, il va avoir, nous dit le Rav, il va se dire que peut-être que ce que je fais n'est pas suffisamment émet, et donc il va dans cette crainte de toujours vouloir aller à la perfection et ne pas dévier, donc il va aller dans le maximum recherche du émet. Donc ça, c'est le, on va appeler le émet, la tuféret qui se trouve dans la gvoura. Et de même dans le émet, on retrouve aussi ces trois. Un homme veut faire du, il recherche le émet parce qu'il est vrai, ou sa recherche à la vérité va l'amener à faire du chesed, parce qu'effectivement le chesed c'est aussi quelque chose de bien. Donc là on va voir le chesed qui se trouve dans la tuféret, et de même la gvoura, s'il va l'amener à lui faire, à, il va faire attention à ne pas s'éloigner de la vérité. Donc là on aura la la tiferet sheba tiferet ou gmura sheba. Donc ça, ce sont les points, on va dire, généraux importants de chacun des avot. Donc Avram bien sûr a œuvré pour toutes les autres midot, mais essentiellement sa mida c'était chesed. Yitzhak c'était gvura din, et on va essayer d'expliquer parce que c'est pas si simple. Tous les mefarshim expliquent ce que c'est le chesed, beaucoup expliquent le Emet de Yaakov, Titen Emet le Yaakov, la Torah de Yaakov. Mais Yitzhak, il passe un peu inaperçu. Et Ezrat Hashem, nous allons aussi voir et expliquer la Mida de Yitzhak, voir qu'il y a une chose extraordinaire dans toute la conduite de Yitzhak par rapport à la conduite de Avraham. Et si vous avez remarqué dans les psukim, il y a eu beaucoup de situations où Avraham et Yitzhak se trouvaient dans la même situation, mais leur réaction a été totalement différente. Et chacun en fonction de sa mida, de sa qualité, de sa fonction aussi. Donc on va commencer par la première, la fonction de chesed, pour expliquer le chesed. Dans le chesed de Avraham, c'est un chesed qui est un peu étonnant. Donc là, on va prendre quelques minutes, on va étudier le chesed de Avraham. Avraham Avinu a fait beaucoup de chesed, il a mis une tente avec quatre ouvertures, etc. Mais la seule fois que la Torah nous parle du chesed de Avraham, elle est dans Parashat Vayera. Avec qui? Avec des anges. Et jusque-là, Avraham n'a pas fait de chesed, bien sûr qu'il a fait du chesed, et après il n'en a pas fait, il en a fait aussi. Mais la Torah, pour nous parler du chesed de Avraham, c'est à travers les anges. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à travers les anges, c'est peut-être la seule fois où Avraham n'a pas fait de chesed. Parce que un ange, il ne mange pas, il n'a pas besoin de manger. Ils ont fait semblant de manger. Ils ont fait semblant d'avoir. C'est comme si vous avez quelqu'un qui se présente à vous et qui vous pleure sur son sort et qui vous dit combien il est dans la détresse et dans la difficulté. Alors, dans un geste comme ça de bonté, on va lui donner un don, on va lui donner quelque chose, on va lui donner à manger. Et puis après, on se rend compte que ce monsieur-là, il ne manque de rien, et qu'il a suffisamment de quoi manger et suffisamment d'argent. Donc ce que je lui ai donné, je ne sais pas, mon chesed, il m'a trompé. Donc est-ce que la question, le chesed de Avraham, n'est pas, avec les anges, n'est pas en fin de compte qu'une simple erreur? Et donc il n'y a pas de chesed.
Il y avait l'intention.
L'intention. Alors vous allez me dire que le chesed d'Avraham, c'est sur l'intention. C'est tout. Il est jugé sur l'intention. L'intention du chesed. Il pensait, il croyait, quel beau chesed d'Avraham. Il a cru que l'autre avait besoin. Oui, peut-être. Notre Mefarshim explique qu'en vérité, il y a un midrash, c'est dans Avot de Rabbi Nathan, je crois que c'est le Perek Vav, qui dit: il y a quelqu'un qui a fait du chesed avec ceux qui n'avaient pas besoin de chesed. Et il y en a un autre qui a fait du chesed avec ceux qui avaient besoin de chesed. C'est qui le deuxième? C'est Iov. Iov, il faisait du chesed avec ceux qui avaient besoin de chesed. Avraham, avec ceux qui n'avaient pas besoin. Et le Avot de Rabbi Nathan fait une comparaison entre le chesed de Avraham et celui de Iov. Avraham, il cherchait le chesed. Il sortait. C'est quand même étonnant. Regardez cette paracha de Vayera. S'il n'y a pas d'invité, pourquoi il va en chercher? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a vu que Avraham est souffrant au troisième jour de la Mila. Il fait sortir le soleil, comme marqué Minartika, de son enveloppe. Et donc, il fait une chaleur étouffante. Personne ne prend la route. Personne ne prend la route. Ah, c'est bien si personne ne prend la route. Donc, personne n'est dans le besoin. Chacun reste au frais, pas aux choses cette fois-ci, mais au frais chez lui. Et il y a donc pas besoin de recette. Avraham, il est à la porte, il dit, il n'y a pas des invités. Pourquoi tu veux des invités? Tu ne vois pas qu'il fait chaud, tu ne vois pas qu'il n'y a personne qui prend la route. Quel était l'intérêt de Avraham Avinu d'attendre des invités? Il n'y en a pas, il n'y a personne qui a besoin de toi.
Il y a toujours plus fort.
Non,
plus fort que lui, c'est un désir.
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, bon,
s'il est habité
puisqu'il
par ce
en veut.
Il est proactif.
D'accord, donc c'était, il était au bout d'un sentiment. Il est, donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, puisqu'il est dans l'adresse, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lui amener des anges qui, eux, non plus n'en ont pas besoin. Mais il va croire qu'il en a besoin et il va être content. Iov, il a marqué, lui, il n'allait pas chercher. Mais il attendait. Celui qui venait. Iov, celui qui avait l'habitude de manger de la viande, il lui donnait de la viande. Celui qui avait l'habitude de manger du poisson, il donnait du poisson. Du vin, il donnait du vin. Avraham, celui qui n'avait pas l'habitude de manger de la viande, il lui faisait goûter de la viande. Celui qui n'avait pas l'habitude de manger de poisson, il lui donnait du poisson. Il n'avait pas l'habitude du vin, il lui donnait du vin. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Alors, les Mefarshim disent, il y a ce qu'on appelle la Midat Rachamim et il y a Chesed. Petitnaeg imanu be Midat Chesed ou be Midat Rachamim, on demande à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Rachamim et c'est quoi Chesed? Rachamim, c'est j'ai pitié. J'ai pitié de quelqu'un. Je vois quelqu'un dans la difficulté, dans la détresse, dans le besoin, j'ai pitié de lui. Donc je vais l'aider. Pourquoi je l'aide? Parce que j'ai pitié de lui. C'est-à-dire que une fois que je suis conscient, j'ai vu sa difficulté, je ne suis pas tranquille. Donc peut-être même pour me calmer moi-même, je vais lui donner quelque chose. Et lorsque je lui ai donné, ah, c'est bon. J'ai fait un geste pour lui. Ça, c'est Rachamim. Et s'il n'a pas besoin, eh ben, tant mieux, Baruch Hashem, il n'a pas besoin, il n'y a pas de... Chesed, ça ne dépend pas de la personne qui est en face de moi. Chesed, c'est un peu comme... C'est en moi. C'est-à-dire, j'ai un besoin de donner. Chesed, c'est que je veux donner, peu importe s'il y a quelqu'un pour le recevoir ou pas. En vérité... Je ne donne que lorsqu'il y a quelqu'un qui est là pour recevoir. Mais celui qui est là pour recevoir n'est pas le but, est en vérité le moyen. Lorsque j'ai de la pitié sur quelqu'un, c'est parce que quelqu'un, je vois qu'il est dans le besoin. Donc je vais l'aider parce qu'il est dans le besoin. Je lui enlève sa difficulté, c'est bon. Le chesed, peu importe si lui il est dans le besoin ou pas. Ce que j'ai besoin, moi, c'est de donner, de faire sortir quelque chose de moi. De chesed?
Oui.
Non, au contraire. Égoïsme, c'est quand, dans la première, dans Rachamim, c'est un peu, il y a, si on peut dire, un peu d'égoïsme. Pourquoi? Parce que quand vous avez pitié de quelqu'un et que vous l'aidez pourquoi? Pour vous, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Vous êtes obligé, vous vous sentez mal.
C'est ça, ouais.
Donc quand vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Parce que dans... on dit que allez, je l'aide. Une fois que vous l'avez aidé.
Ouf, ça va mieux.
Voilà, ça va mieux. Vous me sentez bien. Mais celui qui est. Qui est chesed. C'est pas pour moi. Je venais. Bien sûr, c'est quelque chose qui est dans moi, j'ai un besoin de donner. Mais de donner, c'est donner à l'extérieur, donner aux autres. Donc, c'est moi que je vais pas prier pour qu'il y ait des gens dans le besoin.
Ouais.
On va dire, là, ça devient, comme vous allez dire, non. Un peu égoïste.
En fait,
comme
c'est
on dit.
Ce que le Shem a fait, il a créé un monde.
Il a créé un monde où il y a des gens qui sont dans le besoin. Sans... c'est vrai, comme vous dites ici, c'est exactement la mida de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Olam Chesed Ibane. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde et il n'y avait pas de besoin. S'il n'y avait pas eu de monde, donc il n'y a personne qui n'a. Akadosh Baruch Hu a voulu donner à son monde, a voulu faire jouir au monde, aux hommes, de lui-même, comme c'est marqué dans le Meslat Yesharim, dans le Ramra, dans plusieurs Sefarim, dans le Sefer du Harizal aussi. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde pour donner à l'homme, pour que l'homme puisse jouir de la présence divine. Et ceci ne peut se faire, dit le Meslat Yesharim, que dans le Olam Haba. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam Haba pour qu'on puisse jouir de la présence divine. Mais si on va directement au Olam Haba, alors d'une certaine manière, on ne va pas jouer de la même manière parce que c'est un peu, comme dit le Zohar, c'est du pain gratuit et du pain de honte. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors je vais vous mettre dans ce monde-ci pour que vous puissiez mériter l'autre monde. Mais le but de ce monde-ci, c'est en vérité pour l'itaneg à la chaîne, jouir de la présence divine, les notes de sa proximité, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu. Donc, de la même manière que vous dites Olam Chesed Ibane, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour donner. Ce n'est pas qu'il y avait eu des gens qui ont besoin, il n'y avait rien au début, il les a créés. Donc, la Mida de Chesed, c'est aussi de donner, même s'il n'y a personne dans le besoin. Donc, en vérité, les Malachim qui n'en ont pas eu besoin, mais c'est là que Avraham, on a pu voir la véritable Mida de Chesed qu'il avait, que ce n'était pas de la Rachamim. C'est pas seulement parce que les gens étaient dans la difficulté, c'est parce que il fallait donner. Donc même si les anges n'en avaient pas besoin, c'est ça le chesed.
Avant, il n'était pas conscient.
Il savait que c'était des anges.
Non, il savait pas que c'était des anges.
Il n'était pas conscient.
Donc il est pas. Mais c'est pas grave. Pour lui, c'est là où la Torah vient nous dire regarde, voici un chesed. En fin de compte, les anges n'en avaient pas besoin, mais c'est là où Avraham a montré c'est ce besoin donc de donner. Pas parce qu'il avait pitié des anges. Donc c'est pour cela qu'Abraham était à la porte. Il cherchait. Il cherchait pour donner. Alors il dit, il n'y a personne. Alors Abraham il dit, mais alors à qui je vais donner s'il n'y a personne? Et donc Akadosh Baruch Hu dit, bon, si c'est comme ça, on va faire venir des anges. Et dans la Hanaga de Abraham, si quelqu'un n'avait pas l'habitude de manger de la viande, donc Abraham allait lui proposer de la viande. Parce que je veux te faire goûter, je veux que tu puisses profiter aussi de cela. Ça, c'est Avraham. Et d'ailleurs, la femme de Yitzhak, Rivka, lorsque Eliezer a été la chercher, il a aussi recherché cette mida de chesed. Parce que lorsque vous regardez dans les psukim, il y a quand même quelque chose d'étrange. Eliezer se trouve à côté d'une fontaine, d'une source. Il attend qu'une petite fille arrive avec une cruche. Il lui demande, est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle va puiser de l'eau pour lui et pour tes chambres. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui se trouve à côté du robinet. Ou à côté, avec une bouteille à côté, là, le verre à côté. Il attend. Il attend que quoi? Il y a quelqu'un qui dit, tu peux me servir? Tu peux me servir? Vous savez en hébreu comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un frayer. On dit comme ça, un frayer. C'est-à-dire quoi le frayer? Frayer, c'est celui qui va lui servir de l'eau. Quoi, il ne peut pas se servir?
Quand on y pense.
Pas
se
comment dire, bon,
je suis... Ouais, il a testé, quoi. Il a
oui, mais c'est comme étonnant, elle aurait pu lui dire qu'est-ce qu'il y a d'abord. Lui, c'est un homme fort. Il a eu des chameaux et elle va lui proposer. C'est quoi? C'est du chesed? C'est de l'abus de la gentillesse. Et c'est ça qu'on va dire la grandeur de Rivka. Quelle est la grandeur de Rivka? Eh bien, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend mieux. C'est que le chesed, c'est pas s'il en a besoin, mais c'est il est capable. Les uns, c'est qu'elle veut donner. Tu veux que je te serve, il n'y a pas de problème. Tu veux pour tes chameaux, donne pour tes chameaux aussi.
L'acte de donner.
C'est vrai que lui aurait très bien pu se servir tout seul. Et le fait de lui donner, même s'il peut, ça ne s'appelle pas être ce qu'on appelle un frère. Ça s'appelle faire du chesed. D'ailleurs, vous savez que le Meslat Yesharim, dans sa Agdama, c'est écrit par le Ramcha, Rabbi Moshe Chaim Tzato, on dit au nom de Rabbi Rucham Leibovitch de Mir, qui disait que le Sefer le plus concentré de Kabbalah du Ramcha, c'est Meslat Yesharim. Et lorsque vous regardez Meslat Yesharim, il n'y a pas un mot de Kabbalah. Mais pour celui qui sait lire, dit Rabbi Rucham, il voit à travers ce Sefer-là, toute la derrière tout ce que le Ramchal nous a fait passer à travers ces mots. Et comme le Gaon de Vilna le disait, jusqu'au Perek Yudalef, 11e chapitre, il n'y a pas un mot en trop. Vous vous rendez compte, pas un mot en trop pour quelqu'un qui a vécu il y a quelques centaines d'années, pas un mot en trop avait témoigné le Gaon de Vilna. Le Messie de l'Atcharem nous dit dans sa Agdama, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est le Chesed. On ne sait plus ce que c'est la Chassidut. Il dit, si tu vois quelqu'un qui dit comme ça, qui est mitrased, tu vas dire, celui-là, c'est un homme qui n'est pas intelligent, c'est un peu naïf, un peu bête.
Frayeur.
Comme ça. Frayeur, en d'autres mots.
Ou alors un tartuf.
Hein, pardon ?
Ça existe aussi.
Un
tartuf.
Un
hypocrite.
Donc vous savez, je me disais à l'époque, pourquoi ? Parce que dans notre monde, c'est bizarre, quoi, comme ça, d'aller... C'est ça, le chesed. Donc le chesed, c'est ce besoin de donner. C'est cette mida que Avraham avait en lui de donner aux autres. Et donc même si personne n'était dans le besoin, même si les anges n'étaient pas dans le besoin, même si Eliezer pouvait facilement se servir, le fait d'aller lui servir, c'est ça le chesed. Ça, c'est la mida de Avraham. Si on regarde un petit peu la mida de Yitzhak. Yitzhak, il y a pas mal de choses intéressantes dans sa vie. D'abord, remarquez que Yitzhak était très renfermé. Lorsque Rivka avait les enfants, Vaitrotsetsu, Abanim, Bekirba, il voulait sortir, elle va poser la question à Shem. Elle ne pose pas la question à son mari. Pourquoi ? Yitzhak, il était moins fermé. Il était dans ses quatre coudées. Il était ferme chez lui, avec ses livres, avec son étude. Il n'était pas vers l'extérieur. Avraham, tout au contraire, il était vers les autres. Il sortait, Yitzhak, il était tout dans lui. C'est quoi ? C'est cette mida de Gvoura. C'est quoi la Gvoura ? D'avoir peur de transgresser, de faire un faux pas. Et donc, à force d'avoir, ou d'être, on va dire, la Gvoura à l'extrême, donc il se replie sur lui-même presque, il ne va plus bouger pour ne pas faire un geste de travers. Dans cette crainte qu'il a de ne pas faire ce que Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas Avraham. Au contraire, il sort, il va, il n'a pas peur, Avraham. Alors, c'est vrai qu'il avait la Gvoura, mais ce n'est pas sa mida essentielle, c'est Chesed. Yitzhak, vous voyez que c'est une mida où il se referme sur lui-même. Mais c'est quoi cette mida vraiment de Gvoura ? Regardez que dans la Akedat Yitzhak, ça s'appelle le Nisayon de qui ? De Avraham, pas celui de Yitzhak. Pourtant, un garçon de 37 ans qui se laisse tuer et qui dit à son père « Attache-moi bien, etc. » On n'en parle pas, il n'y a pas. C'est la Akedat Yitzhak, mais c'est le Nisayon de Avraham. Yitzhak, non seulement n'a pas cherché une femme pour lui-même, c'est son père, mais Yitzhak n'en a pas cherché non plus pour ses enfants. Alors que Avraham a cherché une femme pour son fils. Yitzhak n'a pas cherché. Et Esav, il a pris ses femmes, 40 ans, et puis Yaakov.
C'est sa mère qui s'occupe.
Sa mère qui, un petit peu, lui a dit, va, il y a quel âge ? 63. Puis après, il a été gêné vers. À quel âge il s'est marié ? 84.
Il vivait beaucoup plus longtemps.
Il vivait, d'accord, plus longtemps, vous avez raison.
L'échelle
était longue. Mais il s'en est pas occupé, Yitzhak. Il s'est pas dit, tiens, mon bis, il faut le marier. Avraham Avinu, vous avez remarqué, il s'approche de Mitzrayim, il dit à sa femme, attention, qu'est-ce qui va se passer là ? Dis que tu es ma sœur. Enfin, quand on dit que c'est sa sœur, et elle a été prise chez Paro. Elle a été prise à deux reprises. Paro, une femme, Miller. Yitzhak. Vous savez qu'il a la même aventure, Yitzhak. Cette fois-ci avec Avi Meller. Mais Yitzhak, il ne dit pas à Rivka à l'avance. Il lui dit rien. Sur le moment, lorsque on l'attrape, il dit c'est ma sœur. Et c'est étonnant. On ne l'a pas prise. Personne ne l'a prise. Lorsque Avimelech s'est rendu compte que c'était sa femme, il est venu lui crier dessus, lui dit « Comment ? Mais on aurait peut-être pu la prendre. » Mais on ne l'a pas pris. C'est drôle que Avraham, lui, prend ses devants et en fin de compte, on la lui prend. Yitzhak ne prend pas ses devants et on ne la lui prend pas en plus. Un autre point intéressant. Avraham a creusé des puits. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets de Sodome, de Kabbalah sur les puits d'Avraham, de Yitzhak. Mais regardons au niveau du pchat. Il a creusé des puits. Ils ont été bouchés, etc. Yitzhak, il a creusé des puits. Et lorsque il a creusé des puits, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, va-t'en. Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak ? On lui dit, tu es devenu trop puissant, trop grand. Va-t'en. Il s'en va. J'ai quelqu'un, vous êtes puissant, vous êtes grand, on dit, va-t'en. On dit, va-t'en toi. Pourquoi ? C'est moi qui vais partir. Yitzhak, pas un mot, il s'en va. Il veut donner les brachot à Esav. C'est Yaakov qui lui prend les brachot. Lorsqu'il se rend compte que c'est Yaakov qui les a pris, qu'est-ce qu'il dit ? Gam baro prier. Pour un très passif, Yitzhak. Le Mefarshim m'explique, le Rav Pinkus, le Rav Dessler aussi, il le dit, la mida de Yitzhak, Gvura, voici comment il faut la traduire. C'est en hébreu, une idbatlout de lui-même devant un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'annulation de sa personne devant Hachem. Yitzhak dit ce qu'Hachem veut, Hachem fait. Moi, je ne rentre pas dans les chemins de Dieu. Je ne cherche pas de femme pour mes enfants. Je ne cherche pas pour moi. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu voudra, il me la donnera. Ce qu'il fait, c'est bien. Je ne vais pas prévoir pour ma femme de dire que c'est ma sœur ou pas ma sœur. On vient, on me l'a pris, alors c'est ma sœur. Mais en fin de compte, on ne l'a pas pris. Il m'a pris les brachot, si c'est la volonté d'Hachem, qu'on va courir. Il y a une akedat Yitzhak. Si Hachem, il a dit qu'on m'égorge. Il n'y a même pas de misayon. Il s'annule complètement devant Hachem. Ça, c'est la mida de Yitzhak. Dans les puits, on lui dit, va-t'en. Il dit, moi, si Hachem, il veut qu'on va, si c'est comme ça que ça se présente, si c'est comme ça que... Je m'en vais. Il y a une fois où Yitzhak a, entre guillemets, essayé d'intervenir. Et regardez, c'est une explication que j'ai vue cette année qui est extraordinaire, mais qui fait peur dans la mida de Yitzhak. Dans la paracha où Yitzhak va prier pour sa femme Rivka. Qu'est-ce qui est marqué? Vayater Yitzhak le nochach ishto. Il prie. Et c'est quoi Vayater, dit Rashi?
Une fourche.
Oui, et Vayater, c'est quoi Vayater?
Vayater, c'est insisté.
Il a insisté.
Vayivtsar.
Vayivtsar, tout à fait. Et qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Donc Vayetar, pardon, Yitzhak l'Hachem, et après Vayater lo Hachem. Vaillez à terre lo Hachem, et là encore, à Kadosh Baruch Hu, il a accepté sa tfila, à lui. Comme il dit Rashi, nit patser, venit paies, venit patelo. Hachem, bon, il a été martyr, allez, tu veux, d'accord, je te donne. Il y a quelqu'un, comme ça c'est rapporté, qui a été voir le fameux Rabbi Yosef Chaim Zonfeld, qui était le Rav de Yerushalayim. Il y a 100 ans, à l'époque aussi, le Rav Kook était à Mabayafo,
1920.
À peu près. Rabbi Yosef Chaim Zonfeld, il y a quelqu'un qui a été le voir, qui lui a dit, Rabbi, j'ai dit, pourquoi Yitzhak, il a tellement besoin de forcer, de prier Hachem. Il dit, bon, allez, je te donne. Il dit, Rav, j'ai une explication à vous donner. Il dit, à quoi? Il lui dit, à cause de cette fille-là, il y a Esav et Yaakov qui sont nés, tout de suite. Et Esav, le jour donc de sa bar mitzvah, comme c'est marqué, il quitte le bon chemin. Et Yaakov, il mangeait quoi ce jour-là? Nézid Adashim. Pourquoi? Il y a Avraham qui est mort. Pourquoi Avraham il est mort? Pour ne pas voir son fils sortir les Tarboutras. Il dit, Rabbi, Avraham, il devait mourir à 180, il est mort à 175. Mm-hmm. Ça lui a coûté 5 ans de sa vie, quoi? La prière de Yitzhak.
Yeah.
Parce que Yitzhak, il a prié, Hachem lui a dit, ah, tu veux maintenant, c'est pas maintenant le moment, tu veux, tiens, mais ça coûtera 5 ans à ton père. Et sur le moment, Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld, il lui dit, va yater lo Hachem gematria chamesh shanim.
Il perd 5
sur
ans,
le moment.
Il perd 5 ans pour ne pas voir son,
pour ne pas voir son petit-fils. Et s'il était né plus tard, il aurait pu vivre jusqu'à 180. Donc Abraham, il aurait gagné 5 ans. Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld lui dit, va yater lo Hachem sur le moment, gematria chamesh shanim. Lorsque Rabbi Aaron Kotler, le fameux Rabbi Aaron Kotler avait entendu cette matrice. Il a dit ça, c'est une gematria berouach hakodesh. Aussi vite comme ça, tac, berouach hakodesh. La seule fois, si on peut dire, où Yitzhak va pas vraiment s'annuler devant Hachem, il va aller insister. Peut-être qu'il avait la pression de prier. Mais en tout cas, il s'est dit, allez, je vais prier, ça a coûté 5 ans à Abraham.
C'est Hachem qui accepte quand même. Hein?
C'est Hachem qui accepte quand même. Mais c'est-à-dire que
Moshe, il a pas accepté.
Vous avez raison. Mais donc ça nous montre, la mida de Yitzhak, qui a toujours été tout au long de sa vie une annulation complète de sa personne devant la volonté d'Hachem. Je n'interviens pas, je laisse faire venir les choses. C'est Yitzhak. C'est pas Avraham, hein, c'est pas Yaakov, ouais. C'est pas nous, c'est Yitzhak.
Hachem voulait qu'il soit un ange, parce qu'il n'y a que les anges qui peuvent agir de façon consciente.
Alors effectivement, comme vous dites, effectivement, Yitzhak était devenu donc la Temima, il avait un statut particulier, il n'est plus sorti d'Eretz Israël à partir de ce moment-là. Il y a beaucoup de choses autour de Yitzhak. Mais donc cette Mida exceptionnelle de Yitzhak, si on peut la traduire en un mot, c'est il s'annule devant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Rav Dessler donne une très belle explication. Vous savez que Rashi dit sur place pourquoi Hachem il a écouté la prière de Yitzhak. Alors vous dites Chassid, fils de Chassid, Tzadik, fils de Tzadik, et pas fils, fille de Racha. Pourquoi? Parce que le tzaddik ben tzaddik, il a plus de mérite. Non, bon, alors on va dire, bon, il y a son père. Le Rav Dessler, il dit, vous savez, il a plus de mérite, le tzaddik ben tzaddik. Parce que lorsque son père, sa anaga, lui, elle est la contraire de la sienne, qui Avraham, lui, était chesed, tout vers l'extérieur, et que lui, sa mida de Yitzhak, elle est contraire, elle est tout repliée sur lui-même dans la gvoura. Il dit, c'est pour cela qu'il a fait un travail plus grand que celui de Rivka, qui elle se trouvait fille de Racha, mais qui n'était pas contraire complètement à elle. Comme ça, Rav Dessler, ça va chercher très très loin. Vous êtes très très beau ce qu'il dit, Rav Dessler. C'est-à-dire que le tzaddik. Pardon ? C'est-à-dire que pourquoi Akadosh Baruch Hu a écouté la prière du tzaddik, fils de tzaddik ? C'est parce que le tzaddik, fils de tzaddik, donc ici Yitzhak, fils de Avraham, a eu un travail plus difficile que celui de sa femme. Parce que son père était contraire à lui. Et donc lui, dans sa avodat Hashem, Yitzhak, devait faire le contraire de son père.
Il devait sortir du sillon. Quoi.
Il devait sortir du sillon, de tout ce que son père avait
tout en restant tzaddik.
Alors que Rivka, elle, qui avait un père Racha, qui n'était dans aucun... Non, c'était d'une certaine manière plus facile.
Même plus dur.
C'est une autre facette de voir les choses. On peut voir aussi... Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Mais Rav Dessler, d'après ce qu'il dit, donne donc cette explication. D'ailleurs, certains mefarchim qui veulent répondre à la question comment se fait-il que c'était le Nissayon de Avraham et pas le Nissayon de Yitzhak, l'Akedat Yitzhak, c'est parce que tuer son fils, c'était contraire à tout Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le Chesed, c'est les autres, et tout d'un coup, on lui dit voilà, maintenant il faut que tu tues ton homme. Mais pour Yitzhak. Pardon ?
L'Oalta Libo chez la Kadosh Baruch.
Oui, d'accord. Mais c'est ce que ça veut dire, c'était son Nissayon, ce qu'il avait compris. Alors que pour Yitzhak, lui, il n'y a pas de Nissayon. Il s'est annulé complètement devant la Kadosh Baruch.
On a du mal à comprendre.
Pardon ?
On a du mal à comprendre.
Oui, mais parce que c'est la Mida de Yitzhak qui est la Gvoura, le Din à l'extrême.
Même
la Mida d'Avraham. C'est pour cela que on va avoir celui du milieu qui est le Emet, qui est Yaakov, qui est la symbiose entre les deux, la synthèse. Et c'est ce que nous avons besoin nous aussi, un peu de ci, un peu de ça. Et dans notre vie, comme c'est rapporté, Rav Dessler le dit souvent, et dit nous, c'est pas qu'on a toujours une ligne droite. c'est qu'on est entre deux, là, on est un peu là, un peu là, un peu là, entre le Chesed et le Goura, c'est qu'on doit naviguer. Parfois, il faut un peu plus de Chesed, parfois un peu plus de Dine, parfois un peu Zé, oui. Voilà, et avoir le juste milieu.
Mais j'ai pas compris comment c'est des opposés. Le Chesed et la Goura, ils sont pas des opposés.
Si, ils sont opposés, parce que le Chesed, c'est que vous allez vers les autres donner. La Goura, vous allez vous retenir, et vous êtes passif, et vous allez au contraire, par crainte de faire un faux pas, en fin de compte, ne pas sortir vers moi. À corriger toi aussi, d'être obligé.
Mais moi, je suis loin de ce qu'elle dit. En fin de compte, on dit que Yitzhak, c'est aussi le din, mais là, je ne vois pas entre le din et l'annulation de devant les autres. Je ne vois pas le rapport.
Disons que dans le din aussi, c'est-à-dire que la volonté d'Hachem, dans tout, le din, on va le traduire par la rigueur. Donc une rigueur à extrême. Cette rigueur est, attention, pas de faux pas. Pas prendre non plus le risque de faire un faux pas. Donc je vais m'abstenir de sortir de vers. Je vais rester, en fin de compte, dans mes quatre amotes, c'est ce que faisait Yitzhak, pour ne pas être confronté à peut-être une faute qu'il devra gérer par la suite. Peut-être qu'il la gérera bien, parce qu'on n'a pas dit qu'Abraham il est tombé. Mais Samida, lui, c'était de s'éloigner au maximum pour ne pas être dans le nisayon de devoir gérer cette confrontation, cette difficulté.
Alors, rigueur, en hébreu, ça se traduit par bourra.
Aussi, ce sont des synonymes. On va dire la rigueur aussi, la gvura aussi.
Des concepts.
Il y a, vous savez, aussi un point intéressant sur Yitzhak. Yitzhak, c'est marqué Vayetse Yitzhak la soir basade. Il a été, soir basade, prier dans les champs. Prier dans les champs, donc sira, c'est la chose de Tfila. Pourtant, la Gemara, le Midrash nous dit qu'il y a 10 léchonotes de la 10 langages. Sira ne fait pas partie des 10. Il y a Vayamod, Avram, Vayamod, Amida. Tous les thèmes de Tfila qui sont apportés chez Avram, chez Yaakov, aussi font partie des 10 léchonotes de Tfila. Mais Sira ne fait pas partie. Des 10, il ne fait pas partie.
Pourtant, c'était Mira. Enfin, il a créé.
Pourtant, c'était une prière. Alors.
Comment on traduit Sira?
Alors, Sira, la Gemara le traduit par une prière. Mais en fin de compte, comme vous dites, c'est qu'il faut chercher en quoi cette prière était différente. Et c'est là où on va revenir dans le terme de Sira, un peu comme une discussion. C'est-à-dire que Yitzhak, en vérité, ne priait pas comme Avraham. Et Yitzhak n'est pas venu comme Avraham dire « Kadosh Baruch Hu, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être. » Ou comme Yaakov, « Si tu me fais, protège-moi. » Yitzhak, c'est, en vérité, comme ici, c'est nul à Hachem, c'est une sikha avec lui-même, avec Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comme s'il est là et il dit « Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il va y avoir ?» Est-ce que c'est comme s'il se parle à lui-même. Et c'est pour ça que la sira, la tfila en vérité de Yitzhak ne fait pas partie des 10 tfilotes qui nous concernent à nous, puisque c'était une tfila particulière. Ça, c'est une explication que donne le Rav Shimshon Pinkus.
Alors, Hachem était une sévérité exceptionnelle avec lui.
Oui, effectivement.
Parce que rien que le fait de presque cogiter à haute voix, ça.
Parce que lui, c'est comme ça. Puisqu'il est comme ça, c'est Samina. On a une Gemara dans Maseret Shabbat, et de retrouver les termes dans la Gemara, une Gemara assez intéressante. L'Atid Lavo, il y a marqué, à Kadosh Baruch Hu, on a un passage que la Gemara explique, « Ata avinu, toi tu es notre père, toi Yitzhak, qui Avram lo yadanu, ve Israël lo yakirenu. » Avraham ne nous connaît pas, Israël, Jacob, lequel ne nous reconnaît pas. L'atid la vaud du Lagmara, Kadosh Baruch va dire Avraham, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? Ribono shel olam, qu'il soit anéanti al-Kiddush Hashem.
Dur.
C'est dur, hein. Top.
Il a scellé le sort de...
de toutes les générations. Voilà, l'Ati de l'avant.
Et il a eu la compassion pour Ismaël.
Alors attendez. Akadosh Baruch Hu dit, bon, si c'est comme ça, je vais aller voir Yaakov. Yaakov, il a eu 12 enfants. Il a élevé ses enfants. Tsar Gidoul Banim. Il lui dit, peut-être que Yaakov, il va prier. Alors il lui dit, tes enfants ont fauté. Le bonheur, c'est leur lame. Efface-les pour la sainteté de ton nom, Al-Kdushat Shemecha. Lui aussi. Akadosh Baruch Hu, il dit, bah alors, c'est ni chez le grand-père, ni chez le jeune. Je vais aller chez Yitzhak. Il dit, Yitzhak, tes enfants ont fauté. Yitzhak, il dit, mes enfants, c'est pas tes enfants. Et puis, lorsqu'ils ont dit, Naasev Nishma, tu as dit, Béni Bechori Israël. Béni mon fils, mon aîné Israël, c'est tes enfants. Et puis, combien ils ont fauté? Combien un homme, Yemesh not même Shevim Shana, il dit, regarde, jusqu'à 20 ans,
ça compte pas.
Donc compte pas, tu ne punis pas dans le ciel. Donc il reste 50 ans. Dans 50 ans, il y a la moitié, c'est la nuit. Ils vont pas fauter la nuit quand même, hein, ils dorment. Il reste 25, d'accord? Maintenant, il y a dans ses 25 ans, il dit, le temps de prier, de manger, les besoins du corps. Il dit, maximum, il leur reste 12 ans et demi dans leur vie de faute. Tu sais quoi, Hachem, si tu prends tout sur toi, c'est bon. Sinon, allez, on fait khatsi khatsi. Et si tu dis, non, prends tout, eh bien, je ne me suis pas offert à toi. Je n'ai pas proposé ma vie pour toi. Alors là, le Hamisraël dit, ata avinu. C'est toi. Avraham et Yitzra et Yaakov, ils nous ont dit Mahu al Kdushat Shemecha.
Ils étaient dignes là. C'est vrai qu'ils étaient dignes. Alors,
là, c'est effectivement. Et là, Yitzra qui est là.
C'est méchant comme texte.
C'est sûr. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'explications là. Vous savez que lorsqu'on est dans des livres de drash, dans le drush, il y a beaucoup de choses. Des fois, vous entendez un drash, là, il dit le contraire. Dans le drash, là, il dit le contraire, contraire, contraire. Ce qu'il faut toujours avoir, c'est la base. Qu'est-ce que la Gemara dit? Et après, on dit, voilà, ce qu'on rajoute, ce qu'on explique. Peut-être c'est la bonne explication, peut-être c'est une autre explication, mais le drouche n'engage en vérité que celui qui le donne. Ce qui est marqué, est marqué. Plus le drouche vous vient de quelqu'un qui était grand, si c'est un drouche des Tanaïm ou des Rishonim, ou c'est un drouche des Raharoni, Maharal, Maharsha, c'est sûr que ça ne sera pas le même drouche que si c'est moi qui le donne. Donc, tout ce qui est dans le drouche, on le garde, comme on dit en hébreu, Be'er Avon Mugbal. Alors, dans cette Gemara-là, il y a beaucoup, beaucoup de Mefarshim qui cherchent à donner une explication. C'est vrai que c'est une Gemara difficile. D'après ce que l'on a expliqué, le Rav Pinkus donne une très, très belle explication. Il dit, regardez, il dit, c'est simple. Il dit, lorsque on recherche, on pose la question à Avraham. Avraham, c'est vrai que c'est Chesed. Mais Avraham, il va voir, est-ce que même avec tout son chesed, le Ham Israël qui a fauté mérite de vivre? Il regarde, il cherche, il dit, Akadosh Baruch Hu, tu as raison. Ils ont fauté. Il n'y a rien à faire. De même, Yaakov. Yaakov, il rentre, il dit, on lui propose le dossier. Il étudie le dossier, il dit, bon, ben, c'est vrai, j'ai rien à dire. Yitzhak, c'est pas la même chose. Yitzhak, lui, il n'a pas son propre avis. Lui, il est toujours en annulation devant Hachem. Donc Yitzhak, il dit, je vais me mettre à ta place, Hachem. Pas moi, qu'est-ce que je pense comme juge. Qu'est-ce que toi, comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas réagir? Alors je me dis que d'abord, si tu dis mes enfants, non, c'est tes enfants. Et Yitzhak rend comme ça une discussion, si on peut dire, à haute voix, presque comme s'il y a du bonbon, ben après tout, Am Israël, combien? On enlève ici, on enlève là, on enlève combien irait, tout ça. Non, maximum, on partage, c'est beau. Hein. C'était Dafka, cette Midan, Mitsa. Donc Dafka, où le moment de cette annulation devant Hachem, parfois, elle va sauver le Am Israël. Ça, c'est donc notre. Parce que même comme il donne une explication, il dit un dayan, même un juge, un prophète, lorsqu'il va juger son fils, il lui trouvera aussi une petite circonstance atteignante, même si elle ne vaut pas grand-chose, elle n'aurait pas été acceptée ailleurs. Mais bon, c'est son fils. Donc c'est ce que va lui dire, tu vois, c'est comme tout, c'est comme dans le sommeil, ils dorment, ils ne font même pas attention. Ça, c'est Yitzhak. Maintenant, on va un petit peu plus expliquer Yaakov. Yaakov, aussi c'est étonnant, parce que Titen émet les Yaakov. Et le émet, la Gemara, c'est Torah. Et Yaakov, effectivement, est le Hamoud à Torah. C'est Yaakov qui va étudier dans le Yeshiva de Shem Dever pendant 14 ans. Et c'est Yaakov qui a...
De Hever. 14 ans chez
Hever. Il y a marqué Shem Hever. C'est vrai que est-ce que Shem, il était déjà... Effectivement, vous avez raison, il était déjà mort. Mais peut-être que ça portait le nom encore, je ne sais pas.
Non, fait, chez vous avez raison que c'est... Avant, on dit c'est Aoel de Shem et Aoel de Hever. Moi, les 14 ans, c'est que chez Hever. C'est comme ça, Kramer et Yesodola.
Mais peut-être qu'il a gardé la marque.
Vous avez des Rolam, il a même...
Yaakov Avinu. Ah... quand même une vie très particulière où la première partie de sa vie et la deuxième sont totalement différentes. Oui. La première, c'est Ish Tam Yoshev Oalim. Et la deuxième, c'est lorsqu'il va chez Lavan, il se retrouve berger et plus tellement Tam.
Il est expert.
Effectivement. Et il n'est plus tellement Tam. Le Yaakov, qui toute sa mida est une mida de Emet, lorsqu'on regarde dans les psukim, apparemment, c'est que, je ne vais pas dire de l'embrouille, mais il prend les brachot de Esav, il est quand même, on va dire, un peu rusé là. Hein.
C'est limite quand même.
C'est limite. Qu'est-ce qui se passe? Il prend son... Ton frère, il a faim. Tu ne peux pas lui donner un plat de lentilles. Il faut que tu ailles lui chercher la bechora. À ce moment-là, tu sais qu'il acceptera. Il a faim. Il, peut... il lui prend les brachot. C'est ça le Emet. C'est vrai. Annie, elles savent bechorecha. Moi, je suis moi. Elles savent. Mais il a quand même trompé son père. C'est sa mère qui l'a demandé, mais ça ne ressemble pas à Yaakov. Il se retrouve avec Lavan. Et notre cher... cher grand-père. Lavan, hein, grand-père. Notre cher grand-père. Lavan. Pour son troupeau, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait aussi, c'est vrai qu'il prend des bottes de bois, il les taille, il met ça, et en fin de compte, il se retrouve avec tout un... Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette dans ce Yaakov Avinu qui est l'amida de Emet. Ça, c'est aussi une question que beaucoup de Mefarshim se posent. Comment Yaakov, la vérité, le Emet, se retrouve à mentir devant son père, à tromper son père? J'ai vu, moi, une explication de Maître Rav Koppelman. Elle est reprise ailleurs dans d'autres Mefarshim. Il rapportait une Gemara intéressante. Où il y a marqué, vous savez que Shaoul, lorsqu'il était dans un moment de difficulté, il a été rappelé Shmuel. Et Shmuel, lorsqu'il arrive, donc il a été tremblant, tout le monde, il lui a dit, pourquoi tu... il a eu peur du Yom Hadin, comme c'est marqué. Et Shmuel lui dit, ça y est, Akadosh Baruch Hu t'a enlevé la malchoute et va la donner à qui? À David.
Il lui dit pas encore.
Il lui dit. Lorsqu'il était, donc il l'a ramené, il l'a raffermé après qu'il soit mort, il lui a dit, qui va être? Il lui a dit, c'est David. Lorsque Shmuel était vivant, il ne lui a pas dit que c'était David. Il lui a dit, il sera donné à quelqu'un d'autre, de mieux que toi. Dans le Midrash, c'est marqué, Midrash Rabba, Shaoul demande à Shmuel, pourquoi maintenant tu me dis que c'est David, alors que lorsque tu étais vivant, tu ne m'as pas dit que c'était David? Question que pose Shaoul à Shmuel.
Quand il va chez Balatov.
Par, chez le Ov, le Ov. Donc il la rappelle, il lui pose la question. Vous savez, on a Shaoul. Shaoul. On ne sait pas qui c'est Shaoul. J'ai lu la semaine dernière dans un livre que le Chazon Ish était très silencieux. Le Chazon Ish ne parlait pas beaucoup. Le Chazon Ish ne donnait pas de cours. Une fois, pour moi, il donnait un petit mot. Il ne donnait pas de cours. Il était dans son. Il nous a laissé une encyclopédie des écrits extraordinaires qui sont étudiés. Chaque ligne, c'est un monde. Mais lui ne parlait pas beaucoup. Mais j'ai lu la semaine dernière qu'il était assis une fois dans une drachin. Et le drachin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, David était beaucoup plus grand que Shaoul. Mmh. Et le Chazon Ish lui dit, Sheker, Shaoul était plus grand que David.
Grandeur d'âme, vous voulez?
Plus grand, en grandeur. Il était plus grand. Il dit, c'est marqué dans Rashi, c'est marqué ici, c'est marqué là, il était plus grand que lui. Shaoul, on ne sait pas qui c'était Shaoul. On n'imagine pas qui c'était Shaoul. Une autre voix, Bezrat Hashem, pourra étudier et parler un peu de Shaoul, parler de David Amer. Shaoul demanda à Shmuel, pourquoi quand tu étais vivant, tu ne m'as rien dit et maintenant tu me le dis. Shmuel lui dit, quand j'étais vivant, j'étais dans le monde du Sheker. Et aujourd'hui, je suis dans le monde du Emet, donc je peux te dire le Emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais dans le monde du Sheker, pourquoi il ne pouvait pas lui dire le Sheker? Il ne pouvait pas lui dire la vérité, il ne pouvait pas dire que c'était David. Il savait que c'était David. Pourquoi? Parce qu'il était dans le monde du Sheker. Alors, c'est vrai que beaucoup de Mefarshim expliquent la conduite de Yaakov avec son père en une ligne, en une phrase. Et il dit, dans un monde de Sheker, le Sheker devient la vérité. Le Sheker du Sheker, c'est la vérité.
Moi, moi, ça fait plus.
Voilà, moi et moi, vous êtes à plus. Dans le monde du Sheker, le Sheker est la vérité. Ça, c'est une phrase un peu. Maintenant, on va essayer d'un peu. Dans ce monde, qui est effectivement un monde de Sheker, puisque le Emet n'a pas voulu que ce monde soit créé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, le Emet, il a dit, Ali Baré, l'homme n'est pas Emet, l'homme n'est pas de vérité. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris le Emet, il l'a jeté à Arza, comme c'est marqué, il a jeté la terre, mais c'est vrai que ce monde-ci est contraire au Emet. Donc qu'est-ce que vient lui dire Shmuel? Il lui dit, regarde, comme nous sommes dans un monde de Sheker, dans un monde de Sheker, on est obligé de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, parce que si je t'avais dit que c'était David, tu aurais été le tuer. Donc je ne pouvais pas te dire que c'était lui. Parfois, dans ce monde-ci, ou dans le monde de Sheker, je suis obligé de cacher la vérité.
Qui n'est pas un menteur.
Qui?
Ce n'est pas mentir.
Ce n'est pas mentir. Pardon, c'est... Il a cherché effectivement à le tuer, mais sans exactement quel était son...
Qui il était.
Comment il était. Mais après, une fois que... Donc, il n'a jamais su que c'était lui, vraiment. Donc, en vérité, lorsque Yaakov est venu acheter la Bechora, il n'avait pas entièrement tort, Yaakov. Puisque comme c'est marqué que quand il y a deux jumeaux, vous savez, Rashi nous dit que quand vous prenez deux objets, que vous le mettez, vous mettez le premier et le deuxième. Qui est-ce qui sort? C'est le deuxième. Et qui est-ce qui a été mis en premier? Premier. Donc qui est-ce qui est en vérité le vrai Béchor? C'est Yaakov. Donc Yaakov est venu un petit peu récupérer ses droits. Entendre dire que...
Je suis jumeau, d'accord.
Le premier ou le deuxième?
Le deuxième.
Le deuxième. Ah, c'est le vrai Béchor. Donc dans la Mida de Yaakov, c'est qu'en vérité, Yaakov avait besoin de gérer le Emet et le Sheker dans ce monde de Sheker. Donc lorsqu'il se trouve avec Esav, il est obligé de lui reprendre la Bechora. Quand les Brachot, ce n'est pas pour Esav les Brachot, c'est pour lui. Donc il va faire, maintenant malgré tout, il ne va pas mentir, dire c'est moi mon père, c'est moi Esav. Il va à chaque fois essayer d'être le plus Emet dans ce monde du Sheker, mais pour arriver au Emet, pour récupérer les brachot qui en vérité sont pour lui, puisque on dit que d'une certaine manière, les brachot, Yitzhak, ne... J'ai vu que c'est la question que tout le monde pose, l'action comment? Yitzhak, ne savait pas qui c'était son fils. Et ça, vous savez, le premier qui pose la question, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question. Il dit, quoi ? Yitzhak, il ne savait pas qui c'était son fils. Alors il dit là-bas, c'est mais Akadosh Baruch Hu et Limotu. Il ne lui a pas, mais il lui a caché la véritable identité de son fils pour que Hachem vienne lui donner les brachot. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Bien sûr, à comprendre aussi, mais enfin, chaque phrase, là, c'est une étonnante. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu inviter les brachot, c'était pour Yaakov, pas pour Esav. Seulement, ça s'est fait de cette manière. Donc Yaakov vient rechercher. Lorsqu'il est aussi chez Lavan, Lavan l'a trompé tout le temps. Il lui a changé, comme Makaseret Monim, 100 fois il lui a changé son contrat. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov ? Il a essayé simplement, dans ce monde, d'essayer de... Il ne lui a pas volé, il ne lui a pas dit « Tout m'appartient, je vole, je prends » pour dire « Je fais le shaker dans le shaker, donc je suis dans le Hémet ». Non, il a essayé le maximum de rester dans le Hémet, mais il a fait des choses qui sont, dans ce monde de shaker, un peu tordu, mais dans le vrai monde, lorsqu'on a la mission porte du Hémet, lorsqu'on regarde ce monde-ci dans le Hémet, eh bien ça c'est le Hémet. Et on remarquera que c'est ça la avoda qu'avait Yaakov. Yaakov a dû, pendant toute sa vie, se retrouver chez qui ? Chez Lavan, qui est le contraire de sa mida, parce que c'était là-bas qu'il devait s'affiner, s'arranger. C'était pas en restant Ishtam Yoshev Voalim qu'il allait pouvoir arriver au maximum de sa mida. J'ai vu rapporter un Ramban très intéressant où le Ramban dans Parashat Vayechi dit j'ai pas noté sur quel passage qu'il a rapporté le Ramban. Je peux ne pas le retrouver ici. Je n'ai pas noté la référence. Le Ramban dit que Yaakov Avinu est arrivé au summum du Emet que après toute cette période où il était chez Lavan. C'est-à-dire que pendant toute cette période, lui-même, il ne pouvait pas être dans la Shlemut du Emet, parce que, dit le Ramban, d'une certaine manière, chez Lavan, il ne pouvait pas complètement l'être. C'est-à-dire qu'il n'est arrivé à cette Mida de Emet que vers la fin. Que lorsque il avait terminé avec Lavan, lorsqu'il avait terminé avec cette période, donc non, vous m'excuserez, je l'ai cherché aujourd'hui, je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas noté. Donc j'ai une idée à faire. On essaie dans Parashat Vayechi, où le Ramban le dit Mefourash, que Yaakov n'est arrivé au summum de cette Mida de Emet qu'une fois qu'il a terminé avec le mariage.
Une avant-garde.
Une avant-garde, effectivement, donc je suis resté avec. Donc il a dû terminer toute cette. Période-là.
Avant la rencontre avec le Sarche et l'Essav, avant la rencontre avec Essav, avant la rencontre avec Dina, Shrem et tout ça.
C'est peut-être vers la fin. Mais en tout cas, il ne l'avait pas complètement, dit le Ramban, depuis le début. Mm-hmm. C'est-à-dire que même si depuis le début, il est dans la direction du Emet, mais est arrivé un moment où, dit le Ramban, lorsqu'il était avec Lavan, il ne pouvait pas être complètement Emet. Donc il a été obligé, à un moment, de se servir un peu de rameau de l'œil pour pouvoir arriver au Emet. Avraham Avinu a aussi dans sa vie eu quelque chose de particulier, parce que bien que sa mida était une mida de chesed tout le temps, mais vous remarquerez que tous les nisyonot qu'il a eu Avraham Avinu, c'était avec la mida de Gevura. Oui. Puisque Nisayon, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, Lech Lecha, battant, et il laisse son père. On lui fait la Brit Mila, il se sépare, s'éloigne des autres. Il a eu, chasse ton fils, chasse ta femme. Toutes ces mitzvot, C'est-à-dire que la Akeda, c'était le contraire de Brihat. Donc il s'est retrouvé, Abraham Avinu, à avoir, en plus de sa mida de Chesed, il avait aussi eu un grand travail à faire dans la mida de Gevura. Le Rav Dessler dit quelque chose d'extraordinaire. C'est rapporté dans Nemfarchim, c'est rapporté aussi de moi, c'est que il y a un midrash, un sifri qui dit que Sheba Avraham Avinu laolam yatsa mimenu pesolet. Ishmael ou Bnei Ketura. Sheba Yitzhak leolam yatsa mimenu psolet. Esav vechol alufe Edom. Aval Yaakov lo nimtsa bo psolet. Shneimav Yaakov ishtam yoshev oalim. Amar lo amakom lecha ani noten et haTorah. HaKadosh Baruch Hu dit, c'est toi que je donne la Torah. Qu'est-ce que c'est la psolet? Le Rav Dessler explique, c'est ce qu'on dit aussi dans les termes de Kabbalah, le sod à birurim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que lorsque nous avons de la récolte où il y a un peu d'écorce et il y a le blé, on doit enlever, c'est-à-dire on doit faire le tri. Il dit, il y avait aussi dans la mida de Avraham, de Chesed, le tri à faire. Dans la mida de Yitzhak, la Gvura, il y avait le tri. Mais dans la mida de Tiferet et de Yaakov, il n'y a pas besoin de tri. Le Chesed dit, le Rav Dessler dit quelque chose de très intéressant. Il dit, le Chesed de Yitzhak, de Avraham, il devait quand même avoir ses limites. Et donc, ses limites, c'était avec un peu de gvura dans son chesed. Lorsqu'il n'y a pas de chesed dans la gvura, de gvura dans la chesed, oui. À ce moment-là, on se retrouve avec un mot qui est marqué dans la Torah, une phrase qui est très étonnante. La Torah interdit de se marier, des relations interdites avec sa sœur. Et la Torah dit qu'il chesed. C'est du chesed. Quel rapport avec le chesed? Alors les Mefarshim m'expliquent que les Arayot, les Saintes, dans leur base, c'est du chesed, mais qui n'a pas eu la Gvura qui a limité. Et ça, c'est Ishmael. Ishmael, il lui manquait les limites dans le chesed, et Ishmael, il est parti dans le snout. C'est Ishmael. Hadesdé, il continue, il dit que Esav a aussi pris la midat de Gvura de Yitzhak. Mais, au lieu de bien la diriger avec un peu tressed, avec le Hémet, la Tiferet, il a laissé cette Gvura se développer. Et en fin de compte, il est tellement Gvura qu'il est devenu le Esav et le Rotseach, l'assassin. C'est Edom, c'est Esav. Alors que Yaakov, qui lui dans son travail était un travail de la juste mesure entre le chesed et la gvura, eh bien Yaakov, Ishalem, Mitato Shlema, ses enfants Shalem, il n'y avait pas de soleil.
Il a trouvé l'équilibre.
Donc c'est assez intéressant de voir que de Avraham est sorti, donc Ishmael, de Yitzhak, nous avons Esav, et de Yaakov, c'est la Shlemu du Ham Israël. Il y a un grand chidouche qui est rapporté aussi par le Rav Pinkus. Rav Pinkus était aussi un grand Hachem, un grand Mekoubal, mais il ne parlait pas de Kabbalah très peu. Mais on sait que ce qu'il enseignait était toujours, avait derrière quelque chose. Et ce passage-là qu'il m'a dit, j'ai été assez étonné. Et j'ai voulu savoir s'il avait sa source. Là, j'ai posé la question aujourd'hui à un Mekoubal. Mais est-ce que ces lignes-là ont leur place dans la Kabbalah? Il m'a dit qu'effectivement, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose. Il dit, regardez, Esav, il dit, le Chesed, c'est Yémin, Gvura, c'est Smol, Tiferet, c'est au milieu. Le milieu a toujours un peu des deux. Il dit comme ça, de la même manière que Avraham et Yitzhak étaient deux Avot, Av de Chesed et Av de Gvura, en vérité, il devait y avoir aussi deux Avot dans la Tiferet, Yaakov et Esav. C'est-à-dire que Yaakov devait être la Tiferet du Asetov et Esav du Sourmera.
C'est la thèse de Yitzhak.
C'est-à-dire que Esav, dès le départ, pourquoi il voulait se diriger vers l'Avodah Zarah ? C'est pas qu'il voulait faire l'Avodah Zarah. C'est que lui, il avait une attirance, l'Avodah Zarah, pour ne pas faire l'Avodah Zarah.
Pour la détruire.
Pour la détruire, pour être Sourmera, arrête-toi. Donc il veut sortir et se retirer de la... Donc c'est pour cela que Esav était aussi le Ishsadeh à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va être dans les épreuves du monde et il devait normalement Sourmera. C'est-à-dire, éloigne-toi du mal. Yaakov, non, il était proche du Bet HaMidrash, il étudiait de la journée, c'est-à-dire que lui, il devait, sa avoda, c'était rester dans le Asetov. Ne sois pas paresseux dans ce que tu fais. Garde toujours la même vigueur, la même force. Lui a réussi, Esav n'a pas réussi. Et donc, d'après le Rakhmikus, Esav, effectivement, au départ, avait un Shoresh Tov, mais il n'a pas pu le garder, donc il est sorti complètement, il a complètement déraillé. Et ça, effectivement, ça a sa place, puisque dans le Tiferet, c'est aussi le Da'at, il y a deux parties, mais effectivement, ça a une place. Donc là, on voit aussi que nous, les Avot, donc ce plan, cette construction extraordinaire, où d'un côté, nous avons donc le Chesed de Avraham, nous avons la Gvura de Yitzhak, qu'on comprend un petit peu mieux, si on peut dire, à notre niveau, à notre égène, mais on peut un peu mieux comprendre toute la Avoda, les psukim qui concernaient Avraham Avinu, ceux qui concernent Yitzhak, qui, comme vous l'avez vu, ce personnage de Yitzhak est assez exceptionnel, bien qu'on n'en parle pas beaucoup de Yitzhak. Il est très réservé, très retranché.
Mais
dans le Yitzhak, une pacha, il y a extraordinaire. Même si nous, on ne doit pas aller à l'extrême et donc être dans la gvoura extrême, cette annulation complète devant Hachem, puisque nous devons, comme bien Nishtadout, etc., mais ça nous apprend quand même cette force de pouvoir s'annuler devant Hachem. De dire, bon, ben, si Akadosh Borou, ben, c'est comme ça, on accepte, c'est une batnout complète, annulation de nous-mêmes. Et nous avons à côté, donc au milieu, c'est donc Yaakov, qui lui, Yaakov, est le Mida, le Emtsaï, le milieu. Et puisqu'il est le Emtsaï, c'est à lui que Akadosh Baruch Hu donne la Torah, c'est à lui qu'il va avoir Mitato Shlema. Et comme nous le voyons dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov ne termine pas son travail avec lui-même, il y a la suite de Yaakov. La suite de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Et Yosef, c'est, comme l'explique même Rashi, c'est la itpashtut de Yaakov. C'est-à-dire, Yaakov, mec, c'est comment ça va se répandre? C'est Yosef. Puisque vous vous rappelez au début de la paracha que nous avons lu, Rashi nous rapporte que Yaakov est le feu, Yosef est la lehava, la flamme. Et Rashi dit que s'il n'y a pas de flamme, ça ne peut pas. Et ça, c'est la paille. Mais le feu, pour qu'il puisse atteindre la paille, il fallait ce fameux Yosef. Et Yosef, qui a reçu toute la Torah de son père, c'est pour cela que Yosef a été laissé, puisque lorsque Yaakov a vu Rachel, il a vu, c'était dans Rachel qu'il allait pouvoir s'accomplir. Et dans Rachel, c'est donc été Yosef. Donc Yosef est la suite, l'accomplissement. Et c'est Yosef qui est la Lehava, qui est la flamme contre Esav. Esav, c'est de la paille. Et Esav, c'est le Saro chez Esav, comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine, qui vient s'attaquer à Yaakov. Pourquoi il s'attaquait à Yaakov? Le Chafetz Chaim posait la question, pourquoi il s'attaquait à Yaakov? Pourquoi il ne s'est pas attaqué à Avraham? Pourquoi il ne s'est pas attaqué à Yitzhak? Pourquoi c'était juste Yaakov? C'est pas juste parce que c'était le Sar de Esav, puisqu'on dit que c'est le Sar de Esav, mais c'était le Samech même. C'est-à-dire le Saran en personne. Le Chafetz Chaim dit parce que l'antidote du Yetzatan Tzera, c'est la Torah de Yaakov. Et donc, c'est ce combat que Esav a eu avec le Sar de Esav, avec Yaakov. Et c'est un combat qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est là où Esav, le Sar de Esav, frappe des Kaf Yericho. Et Kaf Yerich Yaakov, c'est la fin des temps. Et c'est pour cela, donc on termine avec cela, que c'est marqué dans la Gemara, que à la fin des temps va tehi à Emet Nederet. C'est-à-dire Emet, c'est le Emet de Yaakov. Le Emet de Yaakov est absent, on ne le voit pas. Et c'est ça notre travail aujourd'hui, où on doit, dans ce monde qui est un monde ô combien, on le voit de plus en plus, il s'intensifie de Shegel, et de ramener le Emet de Yaakov. Et ça, c'est à travers notre étude de la Torah, où on va ramener donc l'antidote, dire le comme c'est marqué, le tavlin du Yetzerara, on va comme ça combattre le sein du Yetzerara. Donc voici, si on peut dire en quelques mots, un petit peu, on a fait le tour de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et n'oubliez pas que même Yitzhak, pour pouvoir s'accomplir, en fin de compte, il a eu besoin d'une femme qui était Chesed. Donc même la Gvura de Yitzhak, il avait besoin de Chesed. C'est pas juste parce qu'Avram était Chesed, il a dit il faut pour mon fils Chesed. C'est que pour l'accomplissement de Yitzhak, il fallait aussi ce Chesed qui a pu ensuite amener Yaakov, qui était donc l'Amida, donc Emtsaït, le juste milieu, que nous devons nous aussi suivre, puisque comme c'est marqué dans le Rambam, c'est toujours le juste milieu qui est le bon. Ça ne veut pas dire quand on dit que c'est le bon, c'est-à-dire qu'Avraham, c'est le bon. Non, mais chacun avait sa voda. C'était eux, le Av, comme on dit, le prototype donc de Chesed, prototype de Gvura. Mais c'est notre Anaga qui est celle, donc, dans ce dernier temps, Vatei Emet Nederet. C'est là qu'on doit rajouter le Emet de Yaakov.
Voilà. Ça, c'est lourd.
On dit aussi qu'en général, les hommes sont plutôt chassés des de femmes plus de rigueur.
Exact.
C'est celle qui limite, qui a besoin de
ces deux.
Donc la vérité est faite de la lutte entre les deux contraires.
Pas tellement lutte, la symbiose, on va dire. Effectivement.
La synthèse.
Enfin, c'est quand même une lutte quand on pense que quelqu'un a envie de donner. Et que de notre côté, il doit se retenir parce que c'est son envie et qu'il veut la maîtriser.
Voilà, qui va. Ben, vous voyez bien que la Torah nous donne des limites. Si quelqu'un il veut donner, la Torah dit attends, tu ne dois pas donner tout ton argent. Tu dois donner jusqu'à temps. Pourquoi? Si je veux donner, non, il y a des limites, il y a des choses, il y a des règles. De la même manière qu'on dit il va être rigueur. Pas toujours rigueur, mais il faut aussi.
Pourquoi la chassidoute s'appelle Chesed?
Chassidoute, ça vient d'une Gemara qui dit Ezeu chassid amit chassed im kono, celui qui mit chassed avec Akadosh Baruch Hu. Donc la chassidoute, ça vient de cela, mit chassed, c'est-à-dire. On va dire de chercher à faire le maximum pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, au-delà de ce qui est marqué aussi.
À donner le maximum de soi-même
pour Kadosh Baruch Hu.
Très bien, merci beaucoup.
C'était très intéressant.
Merci.
Comme d'habitude.